Tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal.
Les titres de l'actualité. Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane, a fait hier le point de l'opération Barkhane dans la région des Trois Frontières et les changements profonds concernant le retrait des troupes françaises et européennes du Mali. Les détails dans ce journal. Crise à la Fédération Burkinabé de football, le nouveau ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Abdoul Wahabou Drabo, a reçu en audience Lazare Bansé, président de la Fédération Burkinabé de football. L'ancien président de la République de Zambie, Rupia Banda, est mort hier des suites d'un cancer du côlon. Et puis, notre invité du jour est Sibiri François Yamego, créateur de mode, plus connu sous le nom de sa marque François 1er. Il a fondé une unité de transformation de coton biologique à Kudugu. Le fil qu'il achète est teint, tissé et cousu dans cette unité. Avec lui, il sera question de ses ambitions de vulgarisation des unités de transformation de coton dans les autres régions du Burkina Faso. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. À l'occasion de la Journée nationale européenne d'hommage aux victimes du terrorisme, le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane, était face à la presse hier à Ouagadougou pour faire le point de la réarticulation du dispositif français dans le Sahel. Nous sommes en mesure d'appuyer les amis du Burkina quand et s'ils le demandent. C'est ce qu'a laissé entendre le général Laurent Michon. Plus de détails avec Valérie Guéré.
Barkhane est en mesure d'appuyer le Burkina si les autorités burkinabées en font la demande. Ce sont là les propos du général Laurent Michon, tenu ce vendredi au cours d'une conférence de presse co-animée avec Luc Aladz, ambassadeur de France au Burkina. Le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane.
À la conditionnalité politique près, qui est importante, nous sommes en mesure d'appuyer les armées burkinabées quand et si elles le demandent. Pas toujours partout et de façon instantanée, évidemment, car les moyens sont comptés même pour Barkhane. Encore une fois, en mesure de le faire, si les autorités burkinabées le demandent, en fait, les équipes se mettent en place et je ne sais pas comment ça va évoluer.
Quant à la sécurité des frontières, le commandant de la force Barkhane rassure qu'il va toujours assurer la sécurité des zones des trois frontières.
Nous allons poursuivre l'appui que nous pouvons procurer aux armées nigériennes, burkinabées et maliennes dans la zone des trois frontières, par les airs par exemple, à une unique condition, je parle pour le Mali, qu'il n'y ait pas de Wagner. S'il y a des mercenaires russes, et c'est le cas dans la zone d'interdiction temporaire de survol, vous savez que le Mali a décrété qu'il y avait une zone interdite de survol pour nos aéronefs, donc nous n'y allons pas.
Cette conférence de presse a été organisée à l'occasion de la Journée nationale européenne d'hommage aux victimes du terrorisme. Un hommage a été rendu aux victimes du terrorisme à travers un dépôt de gerbes à la résidence de l'ambassadeur.
Et depuis lundi, on assiste au balai des installations des membres du gouvernement Albert Ouédraogo. Au ministère des Affaires étrangères, Olivia Rwamba et Karamoko Jean-Marie Traoré ont été officiellement installés hier dans leurs nouvelles fonctions. La nouvelle responsable de la diplomatie burkinabé et son ministre délégué, au regard du contexte sécuritaire fragile, compte mener une diplomatie de sécurité et entend travailler avec les partenaires techniques et financiers pour le retour du Burkina Faso dans les institutions sous-régionales et internationales. Retour sur les temps forts de cette double installation avec Judith Traoré.
En prenant la tête de la diplomatie burkinabé, Olivia Rwamba dit prendre la pleine mesure de l'importance et de la noblesse des tâches et missions qui lui sont confiées, n'entendant pas trahir la confiance placée par le président du Faso et le premier ministre en sa personne. Elle a pris le ferme engagement de produire des résultats à la hauteur des attentes. Au regard du contexte sécuritaire, elle va déployer une diplomatie de sécurité. Olivia Rwamba, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur.
Dans un contexte régional marqué par de nombreux défis d'ordre sécuritaire et ses corollaires sur les plans social, économique et humanitaire, il importe d'inscrire au centre de notre démarche et de notre stratégie le concept de diplomatie de sécurité afin de nous adapter aux nécessités du moment en ayant à l'esprit l'interdépendance entre sécurité et développement durable.
Selon la ministre des Affaires étrangères, en urgence, la diplomatie burkinabé doit travailler sur plusieurs chantiers.
Nous avons la lourde charge de travailler en urgence au renforcement des relations avec les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, d'œuvrer à la réhabilitation de notre pays au sein des familles institutionnelles de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la francophonie et de rassurer nos différents partenaires que le Burkina Faso est digne de confiance et mérite toute la place qui lui revient dans le Conseil des Nations.
Olivia Rwamba a invité ses collaborateurs à se mettre donc à la tâche car le temps n'est ni à la paresse ni au laisser-aller, encore moins aux velléités de sabotage de l'élan commun de bien faire.
Pour donc mener à bien sa mission de réconciliation nationale, le ministre chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale peut donc compter sur sa collègue des affaires étrangères. Olivia Rwamba entend sur ce chantier apporter la pierre de son département au processus pour réconcilier les Burkinabés et asseoir une cohésion sociale durable. Propos recueillis par Judith Traoré.
En tant que diplomate, chargé entre autres de soigner l'image du pays dans le Conseil des Nations, nous avons également l'obligation de contribuer au processus de réconciliation nationale afin de ramener une paix véritable et durable dans notre cher pays et bâtir un Burkina Faso réconcilié avec lui-même. Pour ce faire, la responsabilité revient à chacun d'entre nous, aussi bien individuellement que collectivement, de contribuer à asseoir une diplomatie réconciliée avec elle-même.
World Vision International, en collaboration avec ses partenaires, ont tenu une rencontre de dialogue avec les leaders religieux et coutumiers sur la protection de l'enfant au Burkina Faso. C'était jeudi dernier à Ouagadougou. Objectif, explorer des pistes d'intensification du dialogue interconfessionnel en faveur d'une meilleure protection de l'enfant, de la cohésion sociale et de la paix au Burkina Faso. Suivons le compte-rendu de Hervé Mbayam et Pierre Badolo.
La situation de l'enfant au Burkina Faso reste fortement marquée par des pratiques des violations de leurs droits socio-économiques et culturels à cause de la crise sécuritaire que vit le pays depuis 2015. Et c'est pour lutter contre ce phénomène que World Vision International tient ce cadre de réflexion. L'initiative est saluée par les représentants des confessions religieuses. Adama Sourouema, représentant de la Fédération des associations islamiques de Burkina.
Étant entendu que la souffrance de ces enfants sont connues à tout le monde et surtout au niveau des religieux. D'avoir quand même organisé cet atelier pour conjuguer et harmoniser les actions sur le terrain, ça serait une bonne chose. De façon sectorielle ou bien religieuse, chacun de son côté fait un effort pour quand même accompagner ces enfants qui s'ouvrent sur le terrain. Mais si on arrivait à regrouper ces efforts-là, je pense que ça sera la bienvenue.
Les leaders religieux coutumiers jouent un rôle important dans la vie communautaire en Afrique. Conscients du rôle qui est le leur, ces derniers présents à cette rencontre entendent proposer des pistes de solutions pour redonner le sourire aux enfants déplacés internes. Pasteur Fidel Zuma, président du département enfants de la Fédération des Églises et des Missions évangéliques.
Nous attendons de cet atelier des propositions concrètes pour permettre aux responsables religieux qui ont une voix qui porte de pouvoir avec leur assemblée et avec une sensibilisation, je pense que tous nous pouvons voler à l'aide de ces enfants.
Présente dans plus de 100 pays à travers le monde et depuis avril 2021 au Burkina Faso, World Vision International a apporté une aide humanitaire à 60 millions de personnes l'année dernière. La vision de l'organisation est celle d'un monde plus juste où chaque enfant peut manger à sa faim, être aimé, vivre pleinement sa vie et grandir en paix.
À l'international, on vous l'annonçait en titre, en Zambie, l'ancien président de la République, Rupia Banda, est décédé hier à l'âge de 85 ans des suites d'une longue bataille contre un cancer du côlon, a annoncé son fils Andrew Banda. Quatrième dirigeant du pays depuis son indépendance du Royaume-Uni, il a exercé ses fonctions de président de la Zambie pendant 3 ans à partir de 2008. Guerre en Ukraine, au 17e jour de l'invasion de l'Ukraine, les forces russes sont toujours au port de Kiev et l'offensive s'est étendue à la grande ville de Dnipro, à Mariupol, où des milliers de personnes subissent un siège depuis 12 jours. La situation est quasi désespérée, alerte Médecins sans frontières. Le président russe Vladimir Poutine a autorisé l'envoi de combattants volontaires, notamment en provenance de Syrie. Des mercenaires syriens combattent déjà aux côtés des Russes et de l'armée syrienne face aux djihadistes en Syrie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ainsi accusé les Russes d'embaucher des assassins syriens pour détruire l'Ukraine. Environ 100 000 personnes ont été évacuées en 2 jours des villes ukrainiennes. Le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies a confirmé la mort de plus de 564 civils en Ukraine, dont 41 enfants, depuis le lancement de l'offensive militaire russe le 24 février dernier. Intéressons-nous à présent aux causes lointaines de cette crise en Ukraine et c'est avec Brigitte Yoda.
Le conflit ukrainien s'est accéléré comme les montagnes russes lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en avril 2019, a souhaité, en plus d'un rapprochement avec l'Union européenne, adhérer à l'OTAN pour protéger son pays et créer une zone tampon afin qu'aucun missile ne soit à ses portes. Le 22 février 2022, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des régions séparatistes de Lugansk et Donetsk. Il ordonne à son armée d'entrer dans ces territoires. La suite, on la connaît. Le 24 février, la Russie envahit l'Ukraine. Pour le président russe, il s'agit de combattre l'ennemi nazi, introduit selon lui par les États-Unis et le Royaume-Uni dans le gouvernement ukrainien. Mais d'où viennent ces tensions entre la Russie et l'Ukraine ? Comme les poupées russes, le conflit ukrainien a des origines imbriquées à son histoire. Les territoires qui comprennent l'Ukraine d'aujourd'hui ont été par le passé sous l'influence de différentes puissances extérieures. Partagés le long d'une ligne tracée par le fleuve du Dniepr, l'ouest du pays a été pendant des siècles entre les mains de puissances européennes comme la Pologne et l'Autriche-Hongrie. À l'est du Dniepr, c'est la Russie qui affirme son emprise, où entre 1926 et 1959, le nombre de personnes d'origine russe est multiplié par 4. Outre le nombre important de russophones, cette partie est stratégique pour Moscou, car elle lui offre, via la mer Noire, un débouché sur les mers chaudes, c'est-à-dire les pays producteurs de pétrole ou proches de zones pétrolières. En 1954, Nikita Khrushchev, chef de l'URSS, offre la Crimée à l'Ukraine pour fêter les 300 ans de l'unification entre le tsarat de Russie et l'Ukraine. Un cadeau qui augmente le nombre de russophones dans le pays, puisqu'en Crimée, ils sont 3 fois plus nombreux que les personnes d'origine ukrainienne. À la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, en 1991, l'Ukraine accède à l'indépendance. Mais l'héritage historique du pays a ancré des divisions encore bien visibles de nos jours. En septembre 2013, quand le président Viktor Yanukovych décide de se retirer unilatéralement d'un accord d'association avec l'Union européenne, des manifestations s'organisent spontanément sur la place de l'indépendance de Kiev, dite Maïdan, par des partisans d'un rapprochement avec l'UE. Ainsi, pour maintenir son influence en Ukraine, la Russie annexe la Crimée en 2014. Et 2 autres territoires à majorité russophone font sécession de l'Ukraine. Elles contrôlent une partie des régions de Lugansk et de Donetsk. Éclatent alors des combats entre les armées de ces républiques autoproclamées et l'Ukraine, qui ont fait plus de 14 000 morts. Nous ne permettrons jamais que nos territoires historiques et que les personnes qui nous sont proches et qui y vivent soient utilisées contre la Russie, avertissait Vladimir Poutine en juillet. Beaucoup pensaient peut-être que Poutine jouait à la roulette russe.
Omega Sport.
En sport, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a reçu en audience hier le président de la Fédération burkinabé de football. Au menu des échanges, la crise au sein de la fêtière du football, cette première rencontre a permis au nouveau ministre des Sports de s'imprégner de la crise que traverse la FBF et d'envisager une sortie de crise avec l'ensemble des acteurs. Toujours en football, débuté hier avec la victoire de l'AS Douane sur le Royal FC, 1-0. La 19e journée de la Ligue 1 Lonabé se poursuit ce soir avec 5 rencontres. L'AS Police sera face à Salitas FC au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à 16h. En deuxième rencontre, nous aurons l'AS Fayenenga face à Kiko FC. L'ASEC de Kourougou jouera contre Vitesse FC au stade municipal de Kourougou. L'AS Koupéla reçoit le Racing Club de Bobo sur ses installations. Le Majestic SC se déplace du côté de Bobo pour affronter l'ASFB.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Depuis son arrivée au pays natal après un long séjour en France, Sibiri François Yamego, créateur de mode connu sous le nom de sa marque François Ier, a fondé une unité de transformation du coton biologique à Kourougou. Le fil qu'il achète est teint, tissé et cousu dans cette unité, une chaîne de production qui emploie 70 personnes dont 50 femmes. François Ier souhaite avoir de telles unités dans chaque région pour valoriser le Faso d'Amfani. Il s'est confié à Sabuna Ouedraogo dans un entretien que je vous invite à suivre.
Bonjour François Ier.
Oui, bonjour.
Après plus de 30 ans à Paris, après avoir participé à des centaines de défilés de mode dans le monde entier, vous décidez de rentrer au Burkina Faso avec un projet, créer une semi-industrie. Parlez-nous-en.
Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué dans le milieu de la mode, surtout dans l'industrie du prêt-à-porter en France. Et plus de 35 ans, j'étais chef d'entreprise, j'ai décidé de rentrer au Burkina Faso. Tout a commencé par un projet d'installation. En 2004, j'ai créé une société GSD, une SARL, avec un agrément d'implantation au Burkina Faso. Et au guichet unique, j'ai fait les formalités, j'ai eu mon agrément. Après, j'ai fait venir des machines à coudre et tout. L'idée était de faire l'industrie. Après, j'ai vu que le terrain n'était pas favorable pour l'industrie. J'ai commencé à m'installer à Passepanga comme créateur de mode pour faire connaître la marque. Le temps aussi de créer la conception, la mode éthique, travailler, avoir une équipe, cela a pris 8 ans. Et après, maintenant, j'ai fait l'industrie à Kourougou et l'équipe à Ouaga est toujours là.
Qu'est-ce que vous produisez dans cette entreprise à Kourougou?
À Kourougou, c'est toute la chaîne de valeur. On a le coton qu'on prend à UMPCB qui va à Socobio pour l'agrénage. Après, ça va à Filsa pour le fil. Après, le fil me revient, le fil bio 42. Donc, moi, je fais la teinture, je fais le tissage, je fais les vêtements, je fais les accessoires, je fais l'ameublement. C'est-à-dire que c'est une unité de production de textile et puis l'habillement.
Combien de personnes cette entreprise emploie à Kourougou?
Vous savez, quand on parle d'emploi, on parle des emplois directs et indirects. Quand on dit l'industrie, il y a l'impact. Le cœur de l'industrie emploie des gens. Autour de l'industrie, il y a des gens qui travaillent pour l'industrie. Ce qu'on appelle des emplois indirects. Les emplois indirects, je suis presque à 2000 personnes, c'est-à-dire des coopératives, des gens qui sont hors, qui composent avec mon entreprise. Et puis, il y a chez moi. Chez moi, j'ai une cinquantaine de femmes et puis 20 hommes qui travaillent. C'est-à-dire, quand on dit travail, ça veut dire qu'il y a des travails fixes, des gens qu'on embauche, il y a des travails journaliers. Et actuellement, j'ai 50 femmes et 20 hommes. Il y a aussi Ouaga qui s'ajoute, parce que ça fait partie de mon entreprise, l'équipe de Ouaga. Et aujourd'hui, c'est reparti dans plusieurs sections, c'est-à-dire il y a la teinture, il y a le tissage, il y a la couture, il y a la recherche. Et puis j'ai même une garderie d'enfants qui emploie aussi une personne.
Avoir de telles unités dans chaque région du Burkina Faso, ça peut contribuer à lutter contre le chômage des jeunes.
C'est un projet que j'ai présenté, c'est un projet qui a été déjà validé par l'Union européenne. Ils m'ont même pris mon projet en PowerPoint et que je me suis battu au niveau de l'Union européenne à Bruxelles. J'ai animé une conférence J'ai contribué même au développement du projet. L'ex-président était allé signer pour les 6 millions d'euros. Dans ce projet, il était convenu de développer même du textile, de petites et moyennes entreprises, d'accompagner l'industrie culturelle. L'idée était que ce projet soit peut-être réussir à l'avoir comme un projet modèle. C'est-à-dire un projet modèle qui peut être dupliqué. J'ai tout fait. Bon, j'ai essayé de le montrer. J'ai montré ça. Et puis j'ai eu la chance même d'avoir les grandes autorités qui sont venues pour l'ouverture. Mais je pensais que normalement ça allait contribuer au développement. On allait avoir des industries comme ça, des projets de développement et puis créatifs et dans tout le Burkina. Ça allait booster l'économie, booster l'industrie du textile. Mais j'ai vu que la politique, ils ont préféré le macroéconomique que le microéconomique.
Le Faso d'Anfani a connu un essor ces dernières années au Burkina Faso avec justement l'ancien président Roch Kabore comme ambassadeur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la mode se porte bien au Burkina Faso?
Ne confondons pas la mode et l'habillement. L'habillement se porte bien, pas la mode. La mode est éphémère. L'ex-président, il a fait que porter le vêtement Faso d'Anfani qui fait que ce vêtement s'est imposé, ce vêtement est dans la culture des gens, les gens ont compris qu'il faut le consommer local, c'est la transformation, la création d'emplois, les gens y avaient suivi. Je pense que ça reste dans l'esprit des gens. Ce volet-là, c'est-à-dire culturel, ce volet patriotisme économique va rester, c'est aussi de donner des moyens de le développer, de l'amener à l'industrie et de l'amener à ce que la consommation locale s'amplifie et de l'amener aussi à pouvoir l'exporter et vendre ailleurs pour pouvoir aller vers l'industrie.
Un mot sur l'actualité du Burkina Faso qui est en ce moment dirigé par des militaires.
Vu le discours, vu la vision, je pense qu'aussi on se retrouve dans ce qu'ils ont dit. Et, le patriotisme, changer les choses, et on sent le patriotisme en eux.
Voilà. François Ier, merci.
Merci, à bientôt.
C'était l'invité de la rédaction.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Edwige Chendrebego. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.